Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague pour ce bulletin d'information. En titre, le Premier ministre Petr Nečas s'est expliqué cet après-midi devant les députés sur son refus de signer l'accord budgétaire européen lors du sommet de Bruxelles en janvier dernier. Météo, des records de froid historiques sont attendus dans la nuit de samedi à dimanche. Le mercure devrait remonter toutefois ce lundi. Culture enfin, Rembrandt et la collection des peintures hollandaises de la Galerie Nationale seront exposées à partir du 10 février à Prague au Palais Sternberg. Le Premier ministre Petr Nečas a annoncé ce jeudi à la Chambre des députés qu'il n'avait pas refusé de signer l'accord budgétaire de la zone euro lors du sommet de Bruxelles de janvier dernier, mais qu'il ne pouvait pas s'engager en raison du mandat qui lui avait été donné par le gouvernement. C'est ce qu'il a annoncé devant les députés de la Chambre basse où il devait expliquer la position tenue par la République tchèque au sujet de l'accord fiscal européen. Le vice-président de la Chambre des députés et du parti d'opposition social-démocrate Lubomír Zaorálek a qualifié de bavardage les arguments avancés par le Premier ministre. Lubomír Zaorálek a fermement conseillé à la Chambre des députés de voter une déclaration adressée au gouvernement afin que celui-ci entame le processus de ratification au plus vite. Les membres du Parti social-démocrate ont convoqué aujourd'hui deux séances parlementaires exceptionnelles afin d'obtenir du Premier ministre Petr Nečas des éclaircissements sur la manière dont les fonds européens ont été mobilisés et de l'autre, afin d'obtenir des explications du ministère du Travail Jaromír Drábek concernant le chaos qui entoure la distribution des aides sociales et l'affront dont il est l'objet auprès des directeurs de départements du ministère. Le président du Parti social-démocrate CSSD, Bohuslav Sobotka, a attiré l'attention sur le fait que la République tchèque n'a obtenu que 17% de ce qu'elle aurait dû toucher des fonds structurels durant les 5 dernières années. Les ministres ont admis des difficultés, même s'ils considèrent que le pays ne risque pas un arrêt complet de l'envoi des fonds par l'Union européenne. Le Premier ministre a en outre souligné le fait que le gouvernement était actuellement en train de régler les problèmes de versement des subsides européens dans les différents ministères. Politique toujours, l'image du président de la République, Václav Klaus, se dégrade dans l'opinion. S'il remplit avec sérieux ses fonctions d'homme d'État, il ne connaît pas les problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. C'est l'un des principaux résultats qui ressort d'une enquête réalisée le mois dernier par le Centre de recherche sur l'opinion publique, qui a montré que l'image du président s'est considérablement détériorée auprès des Tchèques. Le nombre de personnes qui considèrent que le président n'exerce pas bien les obligations de sa fonction a augmenté durant la dernière année. Alors que les années précédentes, il était crédité de plus de 80% d'opinions favorables, selon le dernier sondage, il ne serait plus que 70% à approuver l'action présidentielle. Ces résultats seraient les plus mauvais enregistrés lors d'un sondage d'opinion portant sur Václav Klaus depuis sa prise de fonction en 2004. Sur l'ensemble des questions posées par les sondeurs, celle portant sur l'image du président à l'étranger a enregistré la plus forte chute. Alors que 75% des sondés estimaient l'an dernier que l'image du président était positive, ils ne sont aujourd'hui que 58% à le penser. Les météorologues de l'Institut tchèque d'hydrométéorologie s'attendent à ce que la nuit de samedi à dimanche prochain soit la plus froide de l'hiver dans le pays. Les températures les plus basses devraient être enregistrées dans les massifs à partir de 1000 mètres, où le mercure pourrait descendre au-dessous de moins 40 degrés. Des températures extrêmement froides sont également entendues dans les plaines ce week-end. Les spécialistes s'attendent à des records de froid dimanche matin, matinée durant laquelle la capitale pourrait bien se réveiller avec moins 25 degrés. Le porte-parole de l'Institut d'hydrométéorologie Petr Dvořák a annoncé que le record historique de froid observé en 1929 en République tchèque pourrait être battu durant ce week-end. Culture, la peinture hollandaise du XVIIe et du début du XVIIIe siècle est à l'honneur à la Galerie Nationale au Palais Sternberg, qui regroupe dans le cadre d'une exposition intitulée « Rembrandt & Co. Histoire de l'art au siècle de la prospérité », une série de peintures du maître et de ses disciples et héritiers. L'exposition présentera près de 300 œuvres réalisées par les contemporains de Rembrandt. Si seuls deux tableaux du maître hollandais seront exposés, le public pourra découvrir l'ensemble des toiles de l'immense collection de peintures hollandaises de la Galerie Nationale. Selon les spécialistes, cette collection consacrée au talent du Pays-Bas est considérée comme l'une des plus riches et des plus importantes d'Europe. Ces œuvres seront à voir du 10 février au 27 mai prochain. Météo enfin, demain vendredi, le temps en République tchèque sera dégagé. Avec quelques passages nuageux, les températures maximales seront comprises entre moins 10 et moins 6 degrés. Nous fêterons demain les Moïmires. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite du programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Paul pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité en ce milieu de semaine figure tout d'abord l'élection du président de la République au suffrage universel. Après le vote du Sénat mercredi, c'est désormais une quasi-certitude. L'année prochaine, les Tchèques éliront eux-mêmes le successeur de Václav Klaus au château de Prague. Culture et peinture ensuite, une exposition consacrée à Rembrandt et aux autres maîtres hollandais des XVIIe et XVIIIe siècles va ouvrir ses portes à la Galerie Nationale de Prague. Et puis dans la seconde partie de ce programme, nous resterons à Prague avec la suite de la série consacrée au café de la capitale tchèque. Dans la rubrique touristique, découverte de l'unique café cubiste de Prague, un café de café Grand Orient qui est aussi sans doute l'un des rares cafés de style cubiste au monde. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, c'est donc désormais une quasi-certitude, le prochain président de la République tchèque sera élu au suffrage universel. Deux mois après la Chambre des députés, le Sénat a en effet voté mercredi en faveur de l'amendement à la loi constitutionnelle qui prévoit de modifier le mode d'élection du chef de l'État. L'année prochaine, le successeur de Václav Klaus au château de Prague ne sera donc plus élu par le Parlement, comme cela était le cas depuis la première élection de Václav Havel en 1993, mais directement par les Tchèques eux-mêmes. Le nouveau texte entrera en vigueur le 1er octobre prochain. L'opinion du président Klaus, qui a qualifié l'instauration du suffrage universel, je cite, « d'erreur fatale », n'y changera rien. À la différence des autres lois adoptées par le Parlement, le président de la République n'a en effet pas le pouvoir de faire usage de son droit de veto concernant les amendements constitutionnels. Jusqu'à présent, le chef de l'État tchèque était élu par les deux chambres réunies du Parlement pour un mandat de 5 ans. Le nouvel amendement prévoit, lui, un mode de scrutin à deux tours similaire à celui des élections sénatoriales. Les deux candidats sortis en tête du premier tour s'opposeront au second. Pour pouvoir présenter leur candidature, les aspirants au château de Prague devront bénéficier du soutien d'au moins 20 députés ou de 10 sénateurs ou encore recueillir les signatures d'au moins 50 000 citoyens tchèques majeurs. Bien qu'envisagé depuis de longues années et réclamé par une majorité de l'opinion publique, notamment écœuré par le déroulement sulfureux de la réélection de Václav Klaus en 2008, l'adoption de ce nouveau mode d'élection ne fait toutefois pas l'unanimité au sein de la classe politique. C'est ce qu'explique le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil. On l'écoute.
Je considère cela comme le résultat d'un compromis politique entre les trois partis de la coalition gouvernementale et l'opposition social-démocrate. En ce qui nous concerne concrètement, au Parti civique démocrate, les avis sont partagés sur le sujet. Certains sont favorables au suffrage universel, d'autres non. Nous n'avons jamais caché que nous n'avions pas de position clairement arrêtée. D'un autre côté, lorsque nous nous sommes engagés avec les deux autres partis de la coalition, nous avons accepté de faire de l'adoption du suffrage universel une des missions du gouvernement. Nous sommes donc satisfaits d'avoir rempli notre mission.
En République tchèque, le président ne dispose que de pouvoirs restreints. Même s'il nomme le Premier ministre, les membres de la Banque centrale, les juges constitutionnels ou possèdent encore un droit de veto sur certaines lois, c'est d'abord un rôle honorifique qu'il tient. Comme le fait souvent Václav Klaus, notamment en ce qui concerne les questions européennes, le chef de l'État peut toutefois également intervenir sur des questions de politique intérieure comme étrangère. La réforme adoptée ne modifiera pas fondamentalement ses prérogatives. Mais selon la sociologue Irgina Chiklova, cela ne change rien au fait que pas plus que les électeurs, ni le système, ni les responsables politiques tchèques ne sont prêts à un tel changement de mode d'élection et de fonctionnement. Irgina Chiklova.
Les politiques ne vont quand même pas abandonner volontairement le pouvoir qu'ils ont au profit du président. Nous n'avons pas de système présidentiel comme aux États-Unis. Si tel était le cas, il faudrait complètement revoir le rôle de tous les autres pouvoirs et institutions. Mais ici, nous n'avons pas cette possibilité. Les gens pensent que le fait d'élire eux-mêmes le président garantira une sorte de contrôle des partis politiques qu'ils ne souhaitent pas voir décider ou qu'ils critiquent. Mais les choses ne se passeront pas ainsi.
Et précisons encore que le deuxième quinquennat de Václav Klaus arrivera à terme début mars 2013. La prochaine élection devrait donc se tenir en janvier ou février prochain. « Voilà, assez de politique pour aujourd'hui. On passe maintenant à la culture et plus précisément à la peinture. Rembrandt et compagnie, histoire de l'art au siècle de la prospérité. Tel est le titre de la nouvelle exposition proposée par la Galerie Nationale à partir du 10 février et qui se tiendra jusqu'au 27 mai prochain. Et cette exposition se veut une plongée dans l'art des maîtres hollandais du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, comme nous l'explique Anna Kubista.
Il est une poésie et une aura de mystère dans la peinture hollandaise qui ne cesse de fasciner aujourd'hui encore, plongeant l'observateur du XXIe siècle dans une rêverie délicieuse d'autres temps. Ceux où l'on patinait sur la glace au pied des murailles d'une ville, où le velours des vêtements exhalait une douce chaleur, où la nature semblait une jungle touffue et irréelle, où sur les tables s'amoncelaient tranches de citron, grappes de raisin luisantes, roses coupées sur une nappe en taffetas. Scènes de genre, portraits, paysages ou natures mortes, tels sont les types de peintures par lesquels les maîtres hollandais ont porté l'art à son summum. La Galerie Nationale de Prague propose de plonger dans cet univers lointain dans le temps et pourtant étrangement si proche pour qui veut bien s'y arrêter un moment. Anja Sefcik est la commissaire de l'exposition Rembrandt et compagnie.
Regardez les portraits ou la nature morte. Un écrivain a décrit sa peinture comme un royaume des objets. On peut en effet y admirer tellement de choses et y interpréter tellement de choses. Mais pour nous, ce qui était important, c'était de replacer la collection dans une société particulière, celle de la Hollande du XVIIe siècle.
Et cette Hollande du XVIIe siècle qui voit naître le grand maître Rembrandt est une Hollande qui connaît un essor économique sans équivalent, un commerce international en plein boom, parallèlement à une autonomisation vis-à-vis des Pays-Bas. Tout ceci s'exprime dans les tableaux présentés à la Galerie Nationale. Mais ceux qui s'attendent à découvrir de nouveaux Rembrandt à cette exposition risquent d'être déçus. Seul le savant dans son cabinet de travail, issu de la collection de la galerie, ainsi qu'un homme en costume oriental prêté par le Rijks Museum d'Amsterdam y seront à voir. Anja Sefcik.
Rembrandt était déjà une icône à son époque. Il avait un très grand atelier et a donc influencé de nombreux peintres. Autour de Rembrandt, nous avons des œuvres de ses élèves. Environ un quart, voire un tiers des œuvres présentées ici sont clairement influencées par la création de Rembrandt, quand bien même tous ces artistes ont pris ensuite une toute autre direction, comme le plus grand concurrent de Rembrandt, Bartholomeus van der Helst, également présenté à l'exposition.
Ainsi donc, c'est plus les peintres qui ont gravité autour de Rembrandt, ceux qui ont été influencés par lui, ceux qui ont été des continuateurs que l'on peut découvrir à la Galerie Nationale. Certaines voix se sont élevées pour critiquer une exposition dont le titre axé sur le maître de la peinture hollandaise prête à confusion, de même que sur le fait qu'il s'agit essentiellement d'œuvres de la collection de la galerie. Celle-ci se défend en arguant qu'il s'agit là de présenter les plus belles œuvres restaurées au cours des 100 dernières années. Il s'agissait, selon elle, plus de mettre en valeur le travail de recherche effectué sur la deuxième plus importante collection de peinture hollandaise au monde après celle d'Amsterdam. En tout état de cause, cette exposition, si elle n'a pas nécessairement l'ampleur de ce qui se fait à Berlin, Vienne ou Londres, permet au moins de découvrir des œuvres souvent réunies pour la première fois. Une plongée dans ce qui a fait la gloire de la peinture hollandaise, le quotidien, les scénettes touchantes ou amusantes, les portraits hiératiques mais jamais sans âme.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite, comme tous les 15 jours, consacrée au tourisme et à la découverte de ce beau pays qu'est la République tchèque. Et dans le magazine touristique aujourd'hui, nous vous proposons la troisième partie de notre série de reportages sur les cafés les plus connus et les plus intéressants de la capitale tchèque. Cette fois, nous vous ferons découvrir le Grand Café Orient, situé place Ovocný trh, à proximité de la place de la Vieille Ville, le seul café cubiste de Prague est probablement un des rares cafés au monde emménagé dans ce style. Le café se trouve dans la célèbre maison dite à la Vierge Noire, un bâtiment qui abrite également un musée du cubisme tchèque. Le passé et le présent de ce café, pas comme les autres, est très recherché par les touristes étrangers avec son propriétaire Rudolf Božinek que Magdalena Rosinkova a rencontré.
Thank you. Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Bonjour, le café Grand Orient où nous vous emmenons aujourd'hui est intéressant à plusieurs points de vue. Tout d'abord, son passé est entouré de mystères. Le bâtiment en tant que tel a été construit en 1912 par l'architecte Joseph Gochard à la place d'une maison médiévale dont a été conservée en façade la statue gothique de la Vierge Noire, d'où le nom de ce bâtiment Dom Ucernej Matki Bożej, la maison à la Vierge Noire. Façade ocre, pureté des lignes cubistes, angle droit, forme géométrique. Le bâtiment offre de l'extérieur comme à l'intérieur une plongée dans le cubisme, ce mouvement avant-gardiste très actif en Tchécoslovaquie au début du XXe siècle. On écoute Rudolf Brinek, propriétaire du Café Grand Orient.
L'architecture, c'est un fait, c'est une chose qui n'a jamais...
L'architecture cubiste, c'est vraiment quelque chose que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Même en République tchèque, les monuments cubistes sont rares. Il y en a une dizaine dans tout le pays. Parmi eux, donc, la maison à la Vierge Noire, qui est un cas exemplaire de ce style architectural. Un seul mur n'est pas droit. Le bâtiment ressemble à un cristal. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont l'architecte Gochard a su intégrer cette construction cubiste dans l'architecture de la vieille ville de Prague.
Na tomhle ještě byla zajímavá jedna věc, on to bylo postavený v roce 1112.
Ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est qu'il a été conçu en 1911 et 1912 en tant que grand magasin. Or, à l'époque, contrairement à ce que l'on connaît aujourd'hui, les magasins n'étaient pas ouverts 24 heures sur 24 et pendant les week-ends. Pour rendre le café accessible pendant ce temps-là, ce dernier avait sa propre entrée du côté de la place Ovocnitr. La deuxième particularité, c'était les éléments cubistes à l'intérieur du café, créés par Gochard, par exemple le bar ou les objets en verre comme les lustres et les lanternes.
Pourtant, ce beau café cubiste de Prague a eu une vie éphémère. Après la Première Guerre mondiale, il a été fermé, son mobilier détruit et le bâtiment transformé en banque. Rudolf Brinek explique.
Il y avait plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le cubisme n'était plus à la mode après la guerre 14-18. Il se retrouvait dans une impasse et n'intéressait plus personne. Même si on retrouve encore certaines influences cubistes dans l'art déco à la fin des années 1920. La deuxième raison était le contexte historique d'après-guerre. N'oublions pas que le café s'appelait Grand Orient. Il se trouvait, comme aujourd'hui, au premier étage, mais au sous-sol, il y avait, outre la cuisine et les lieux de stockage, encore un bar aussi appelé Orient. C'était un bistrot où l'on dansait et qui était aménagé dans un style turc. Mais comme vous le savez, la Turquie a perdu la guerre, et celui qui perd est toujours rejeté.
Depuis l'entre-deux-guerres et jusqu'à la chute du régime communiste, la maison à la Vierge Noire abritait des bureaux. En rénovation depuis le milieu des années 90, le bâtiment a rouvert en 2003 et depuis ce temps-là, on peut y admirer une exposition permanente consacrée au cubisme. Une internaute française écrit dans son blog « Le principal atout de ce musée est d'être petit, sans lasser le visiteur en quelques œuvres majeures et lui fait découvrir l'esprit dans lequel travaillaient les artistes tchèques curieux d'explorer les domaines traditionnels de la peinture ou de la gravure, mais aussi de la photographie, de l'architecture, de la céramique, du mobilier ou du graphisme. S'arrêter d'abord au café est une bonne idée. Cela permet de se restaurer, mais surtout d'habituer son œil à ces formes toutes géométriques, exclusivement géométriques, avec une préférence pour l'angle droit. J'avoue un petit faible pour les porte-manteaux et surtout pour cette délicieuse habitude des cafés pragois de mettre les journaux à la disposition de leurs clients. » Fin de citation. En 2004, Rudolf Brinek, juriste de profession, grand amateur et collectionneur d'art, ouvre au premier étage de la maison à la Vierge Noire, à l'emplacement du café qui existait à l'origine, le nouveau Grand Café Orient, entièrement emménagé dans le style cubiste. La tâche était difficile, du fait que seules quelques photographies en noir et blanc de l'ancien café se sont conservées. Il n'empêche que le résultat est très plaisant. Chaises et sofas revêtus de tissus rayés de couleurs blanches et vertes, lustres, glaces et vaisselle respectant les fameuses formes géométriques. La spécialité du Grand Café Orient, un viennet tchèque cubiste, donc une pâtisserie tchèque ressemblant à une couronne de crème, mais à la forme rectangulaire. Rudolf Brínek.
Notre café est un lieu de rencontre privilégié des étudiants et de leurs professeurs. Par ailleurs, nous organisons régulièrement des débats sur l'architecture, animés par Zdeněk Lukeš, des présentations de nouveaux livres. Ce n'est pas un milieu snob, notre clientèle est très variée. J'aimerais vraiment savoir qui fréquentait ce café au début du XXe siècle. Le problème est que dans les livres et les journaux, il est impossible de trouver quoi que ce soit sur ce café. Il n'y a aucune information, aucune trace. Il est vrai que pendant la Première Guerre mondiale, rien ne fonctionnait. Après 1918, le café était déjà fermé. Là encore, je ne connais même pas la date exacte de sa fermeture. Je sais seulement qu'au début des années 1920, tout le bâtiment était en rénovation.
Le Grand Café Orient dispose d'une centaine de places situées à l'intérieur et sur le balcon qui sert de terrasse. Il est ouvert en semaine à partir de 9h et le week-end à partir de 10h et il ferme tous les jours à 22h. Vous trouverez plus d'informations sur son site internet en version tchèque, anglaise et allemande au www.grandcaféorient.cz. À savoir que Rudolf Brínek est également propriétaire d'un autre café pragois assez particulier installé dans un vieux tramway au milieu de la place Venceslas. Il n'est pas sans intérêt de savoir que ce tram fut utilisé pour servir de barricade lors de l'insurrection de Prague en mai 1945. Rudolf Brínek habite dans le quartier pragois de Baba, dans une villa fonctionnaliste édifiée par l'architecte hollandais Mart Stam, reconstruite à plusieurs reprises et qui a retrouvé, grâce à son actuel propriétaire, son style original.
Voilà, et c'est déjà la fin pour aujourd'hui du bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague. Ahoy.